Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Après le pacte de solidarité, le mariage, la procréation médicalement assistée pour tous est en marche pour les couples homosexuels en France. Enfin, pas pour tout de suite. L'examen du projet de loi de bioéthique qui ouvrirait ce droit ne sera finalement débattu qu'à l'été prochain. Et ailleurs, en Europe, quel nouveau droit s'ouvre pour les gays? En Espagne, pays pionnier qui a été le premier à autoriser le mariage pour tous en 2005, pays où des femmes de l'Europe entière viennent se faire inséminer dans des cliniques privées, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez prévoit une nouvelle réforme, permettre la PMA dans des hôpitaux publics et donc une intervention entièrement remboursée pour les femmes seules ou lesbiennes en couple. Pour mesurer l'ampleur du chemin parcouru en à peine 15 ans, Diane Cambon est allée rencontrer dans un petit village d'Estrémadure, dans l'ouest de l'Espagne, un couple de femmes mariées qui attendent leur deuxième enfant.
Elles se sont connues sur les bancs de la faculté d'agronomie de la ville de Badajoz, en Estrémadure, à l'ouest de l'Espagne. Et depuis 18 ans, elles ne se sont pas quittées. En 2006, un an après la législation du mariage pour tous, Sylvia et Sonia ont décidé de s'unir officiellement. Il y a 3 ans, Sylvia a accouché de leur premier enfant, une petite fille nommée Alicia, conçue par insémination artificielle. Un couple presque ordinaire, selon Sylvia.
Nous vivons totalement intégrés dans un village de 8000 habitants, dans une zone rurale. On travaille toutes les deux. Moi, je suis ingénieure agronome et je travaille avec des hommes que je dois diriger. Et je n'ai jamais rencontré de problème, ni à cause de ma condition de femme, de mon couple ou de ma vie de famille. On est dans la normalité et c'est ce que l'on recherche.
13 ans après la légalisation du mariage entre personnes du même sexe, être un couple homosexuel en Espagne, c'est être un couple tout court. Enfin, pas tout à fait, car si la loi autorise l'adoption, elle ne permet pas pour l'instant d'avoir accès à l'hôpital public pour une procréation médicalement assistée. Les femmes seules et lesbiennes doivent recourir aux services de cliniques privées. Une restriction qui devrait être levée l'an prochain, a promis le nouveau chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez. Pour Sylvia, qui attend son second enfant et qui a dû recourir au système de santé privé pour tomber enceinte, l'accès aux soins publics doit être un droit légitime.
L'Espagne a beaucoup d'avance, mais la sécurité sociale est très restrictive. Moi, je suis d'abord allée dans le public et ils m'ont dit que cela dépendait du gynécologue qui allait me suivre, qu'il pouvait faire valoir son objection de conscience. Pour moi, il était hors de question de dépendre d'un monsieur, une personne qui allait décider de ma vie. Je me suis dit que j'allais directement aller dans le privé, car heureusement, je dispose de moyens financiers.
L'Espagne est devenue leader en Europe dans la procréation médicalement assistée. Des milliers de femmes françaises et portugaises ont recours chaque année aux cliniques privées et légales avec l'espoir de tomber enceinte. Rien ne leur est demandé sur leurs conditions familiales. Pour les couples de lesbiennes, la loi permet en outre la reconnaissance de l'enfant par les deux femmes. Une seule condition est requise, comme le rappelle Sylvia.
Notre situation est aussi légale que celle d'un couple hétéro. Notre fille porte les noms de famille de chacune, mais pour cela, il faut se marier avant, car si tu vis en concubinage, seule celle qui a porté l'enfant est reconnue.
L'arrivée d'Alicia et d'ici quelques mois du petit frère a favorisé encore un peu plus leur intégration dans le village, comme le souligne Sonia.
Le fait d'avoir eu un bébé, ça aide à nous intégrer à la communauté. On te voit comme un couple stable. Ton enfant ira à l'école avec les autres, on vient de parler et on a un sujet classique sur lequel échanger. Est-ce qu'il dort bien? Comment il mange? Comment se passe l'école? Etc.
Et dans le village, les relations avec les anciens sont aussi très apaisées.
Elles sont adorables. Les personnes âgées te respectent plus. Elles sont plus discrètes qu'un jeune qui est prêt à te poser des questions très indiscrètes.
Une des questions fréquentes porte sur le coming out, ou la sortie de l'armoire, comme on dit en espagnol, pour définir le moment où la personne révèle son homosexualité à son entourage. Pour Sonia, cela reste le passage le plus délicat, beaucoup plus que celui de vivre dans une relation de couple assumée.
La communauté LGBT doit les aider à révéler leur homosexualité, qu'elles se sentent protégées et pas toutes seules. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se cachent, notamment dans le milieu rural. Elles restent cachées car leur milieu est très restreint, tout le monde se connaît, ta grand-mère, ta tante, et tu redoutes le rejet de ta propre communauté. Moi, je veux montrer que l'on peut vivre en couple sans aucun problème, sans aucune violence, sans aucune discrimination.
Pas de discrimination sociale, même si ces couples homosexuels sont encore parfois confrontés à une certaine gêne sociale. Patricia vit depuis 10 ans à Madrid avec sa compagne. Dans la capitale espagnole, on pourrait croire que les esprits sont encore plus ouverts, mais elle s'amuse souvent de l'embarras de ses interlocuteurs.
Je trouve intéressant de voir comment les gens ont souvent du mal à nommer notre réalité. Ils ne savent pas comment appeler ma femme. Ils n'osent pas dire ton épouse, ta copine. Ils me disent par exemple, dis-lui à l'autre.
Mais Patricia, qui a vécu 20 ans à l'étranger, a pu mesurer à quel point son pays a évolué.
Les lois ont bien permis de changer les mentalités. Je suis partie d'Espagne à l'âge de 24 ans car je me sentais assez claustrophobe. Je ne me voyais dans aucun rôle social. Et quand je suis revenue à vivre ici, j'ai senti que cela avait changé. Je ne vis aucune discrimination, rien à voir avec l'époque où j'étais jeune et où on te traitait de camionneuse si tu jouais au foot.
Si dans la vie quotidienne, les homosexuels ont gagné de nombreuses batailles, le collectif Lesbienne d'Espagne estime qu'il lui faudra encore travailler dur pour féminiser le monde de la justice, de la politique ou de l'université, encore largement réservé aux hommes.
Sur la carte de l'Est de l'Europe, coincée entre la Pologne au nord, l'Autriche et la Hongrie au sud, la République tchèque fait un peu figure d'ovni sur ce sujet de société. À Prague, le Parlement est en train de débattre du mariage pour les couples homosexuels. On retrouve notre correspondant Alexis Rosenzweig. Et Alexis, il y a fort à parier que cette législation va passer le plus naturellement du monde, sans aucune manifestation d'opposants.
Eh bien, voir les forces en présence et la répartition des sièges au sein de la Chambre des députés, il semblerait en effet que ce nouveau texte permettant aux couples du même sexe de se marier ait bien des chances d'être voté. Les partis politiques qui composent l'actuelle coalition gouvernementale et aussi d'autres formations de l'opposition se sont montrés favorables à l'adoption du mariage pour tous. D'autres formations sont beaucoup plus réticentes, voire hostiles, comme l'extrême droite ou comme le parti chrétien-démocrate aussi, qui avait porté un texte pour que le mariage soit strictement réservé aux couples hétérosexuels et ce, inscrit dans la constitution du pays. Alors, il faut quand même souligner que la scène politique tchèque est assez instable en ce moment, en raison des ennuis judiciaires du Premier ministre Andrej Babiš, mais dans la configuration actuelle et sans changement majeur, le mariage pour tous pourrait bientôt devenir une réalité ici à Prague.
Et en cas de vote favorable au Parlement, Alexis, la République tchèque deviendrait donc le premier pays de l'ancien bloc communiste à adopter le mariage pour tous.
Oui, et il y a sans doute plusieurs explications possibles à ça. D'abord, la Tchéquie est un pays considéré comme libéral, au sens où l'influence de la religion y a été restreinte depuis longtemps. On dit d'ailleurs du pays qu'il est l'un des plus athées d'Europe, voire du monde. Ce n'est pas du tout la même réalité ici que chez les voisins polonais ou slovaques, par exemple. Et il n'y a pas eu à Prague de manifestation contre le mariage pour tous, en tout cas pas du tout pour l'instant. D'autre part, il faut souligner que le gros travail fourni par les associations de défense de droits des communautés LGBT a fini par payer. Elles ont beaucoup œuvré pour que ce débat soit mené par les responsables politiques. Un débat qui a été au Parlement, en tout cas pour l'instant, vif mais de bonne tenue, sans être terni par des propos homophobes. En 2006, déjà, la République tchèque était devenue l'un des premiers pays d'Europe centrale et orientale à adopter le partenariat enregistré pour les couples homosexuels, un partenariat qui pourrait être comparé au Pax français.
Merci Alexis Rosenzweig, à très bientôt.
À bientôt.
Et plus à l'est, en Bulgarie, les changements se font lentement, très lentement. Aucun débat parlementaire à l'horizon et encore moins de projet gouvernemental. C'est finalement par le biais de la justice que les couples homosexuels essaient de faire valoir leurs droits en demandant une reconnaissance a posteriori d'une union contractée dans un autre pays européen. On retrouve à Sofia notre correspondant Damien Vodenicharov. Bonjour Damien.
Bonjour Frédéric.
On peut dire que les droits de la communauté gay en Bulgarie commencent à peine à émerger.
Oui, ça débute tout d'abord par une certaine visibilité. La Sofia Pride se tient ici chaque année depuis 10 ans maintenant. Et c'est une manière festive de mettre en avant les revendications de la communauté LGBT. Mais il y a aussi un festival de cinéma gay dans la capitale ou des expos qui cherchent à sensibiliser le public.
Et tout récemment, les 3 ONG qui défendent les droits des homosexuels ont créé un centre communautaire, ça s'appelle le Rainbow Hub, où vous vous êtes rendu.
Exactement, c'est un lieu destiné à accueillir les militants, mais surtout les jeunes qui ont du mal à assumer leur identité sexuelle. Écoutez Stoyo, responsable du groupe Jeunesse, qui nous a fait visiter les lieux de ce Rainbow Hub, qui existe depuis 6 mois à peine.
Avec le Rainbow Hub, on peut maintenant accueillir les jeunes sur place. La stigmatisation des homosexuels est bien réelle, et les gays et les lesbiennes ont parfois honte de venir nous voir sur place. On maintient donc le contact avec eux, en ligne, sur Facebook ou par email. Ces personnes n'ont jamais avoué leur homosexualité à voix haute et on tente de répondre à ce problème.
Et Damien, parmi les revendications des activistes, on imagine bien que c'est le mariage qui arrive en tête. L'union des personnes de même sexe n'est pas reconnue en Bulgarie.
Oui, il n'y a pas de mariage homosexuel dans le pays et la Constitution affirme que le mariage n'existe qu'entre un homme et une femme. La parade qu'ont trouvé les couples homosexuels, c'est de se marier à l'étranger et tenter ensuite de faire reconnaître leur union en Bulgarie, ce qui, vous l'aurez deviné, est très difficile. C'est justement le parcours de Lily et Dari, qui vivent en couple depuis 10 ans et qui ont décidé de se marier il y a 2 ans. Écoutons-les.
Nous étions au Royaume-Uni pour quelques mois et nous avons décidé de nous marier. Nous y pensions depuis longtemps. Mais notre mariage n'a pas été reconnu ici et c'est la justice qui doit trancher maintenant.
Les gens ont du mal à comprendre pourquoi c'est important pour nous. Parce que pour eux, le mariage, ça va de soi. C'est facile. Ils ne se rendent pas compte de leurs privilèges, de leurs droits en tant que couple marié. Nous n'avons pas ces droits et ça nous manque.
Donc ce couple mène une bataille juridique pour faire reconnaître son mariage. Quelle est la position des institutions alors et du gouvernement?
Alors les autorités s'opposent vigoureusement au mariage homosexuel. Comme dans toute l'Europe de l'Est, en Bulgarie, les nationalistes font partie du gouvernement de coalition. Et c'est même le ministère de l'Intérieur qui fait appel dans les procès pour reconnaissance des mariages homosexuels. C'est le cas aussi de Mayama et Christina, un couple franco-australien qui a habité un peu partout en Europe. Ils ont décidé de faire reconnaître leur union. Elles se sont mariées en France il y a 2 ans et c'est une première. La justice bulgare a reconnu leur mariage en première instance. Mayama et Christina sont aujourd'hui des militantes pour l'ensemble de la communauté.
Nous devons comparaître devant la Cour suprême dans quelques mois. En Roumanie, notre procès avait finalement abouti devant la Cour de justice européenne qui s'était prononcée en disant que tous les pays européens devaient respecter le mariage homosexuel. C'est donc juste une question de temps. Nous sommes 2 étrangères dans un pays européen, donc il s'agit aussi de la libre circulation. Ce procès pourra servir aux Bulgares aussi, qui doivent être des citoyens européens à part entière.
J'ai des amis gays qui vont avoir des enfants maintenant, et je me suis mise à penser à eux. Jusqu'à présent, je me disais que je menais ce combat parce que personne d'autre ne voulait le faire. Et maintenant, je ressens une responsabilité particulière.
Et dans ce combat, la communauté gay peut compter sur un allié politique. Il est très isolé face au gouvernement nationaliste.
Oui, c'est Viktor Lilov, premier homme politique bulgare ouvertement gay. Il est seul face aux nationalistes, mais aussi aux socialistes qui sont aussi très conservateurs sur les questions de société dans le pays. Pour lui, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Je pense que la première chose à faire serait de reconnaître les mariages conclus à l'étranger. Ensuite, il faudrait reconnaître le concubinage. La Bulgarie fait partie d'une minorité de pays qui ne reconnaissent pas le concubinage. Ça limite fortement la possibilité pour les couples non mariés de demander des crédits pour financer l'achat d'un logement, par exemple. Enfin, le dernier serait de reconnaître le mariage homosexuel en changeant la Constitution.
Au niveau des institutions, on l'a compris, c'est très difficile pour les couples homosexuels. Et est-ce que les mentalités évoluent, Damien ?
C'est difficile à dire. Si on prend l'exemple de la Sophia Pride, elle se déroule maintenant dans un calme relatif, alors qu'en 2008, lors de sa première édition, il y avait eu des échauffourées entre des groupes nationalistes et des participants à la parade. Il y a toujours des contre-parades, mais il n'y a plus de violence.
Merci Damien Vodenicharov à Sofia en Bulgarie. Et pour notre chronique livre, nous parlerons sociologie sur un tout autre sujet, celui des migrants. Isabelle Coutan vient de publier aux éditions du Seuil « Les migrants en bas de chez soi ». Elle y raconte l'histoire de ces demandeurs d'asile qui ont élu domicile en 2015 dans un lycée désaffecté de son quartier, juste à côté d'un collège pour les enfants de l'arrondissement. Elle a raconté à Catherine Roland son enquête.
Je me suis concentrée en particulier sur la barre immédiatement voisine du lycée occupé. Elle avait pour particularité que l'amicale des locataires a explosé suite à cette occupation, avec les pour et les contre. Et puis, comme c'est du logement social intermédiaire, il y a aussi une partie de catégorie intellectuelle et artistique qui habite dans ces bâtiments, pas mal d'intermittents du spectacle, des choses comme ça. C'est là qu'est née aussi la mobilisation de ce qui est devenu un groupe qui s'est appelé Solidarité Migrants Place des Fêtes. C'était beaucoup des parents d'élèves du collège qui voulaient aussi que la rentrée se passe bien pour les enfants. Ils avaient peur que le Front National instrumentalise cette situation, ce qu'il avait commencé à faire. Donc ce sont des gens qui se sont engagés à la fois en se disant on va accompagner les migrants dans leurs revendications et puis aussi s'engager pour le quartier, pour préserver le quartier, l'équilibre du quartier.
Alors le point de vue des migrants, vous le donnez pas tout de suite en fait hein, dans votre enquête. Vous finissez par les rencontrer, mais pas tous. Et vous constatez aussi qu'ils sont divisés eux-mêmes entre plusieurs groupes.
Mon premier contact, c'est le représentant des Afghans, et notamment des Afghans Pachtounes. Et c'est quelqu'un qui avait une telle centralité dans ce lieu que, d'une part, c'est pour ça, je pense que je suis tombée sur lui d'abord. Il avait une centralité parce qu'il était le seul dans ce lieu à pouvoir parler avec tout le monde, parce qu'il parlait les différentes langues de l'Afghanistan. Il avait passé du temps aux Émirats Arabes Unis, donc il parlait l'arabe. Et puis, il parlait l'anglais aussi. Donc, en fait, il pouvait parler avec le voisinage, avec les différents groupes d'Afghans qui étaient organisés par ethnie dans les chambres, et aussi avec les Africains de la Corne de l'Afrique, Soudanais, Érythréens, avec
l'arabe. Oui.
J'ai été adoptée par lui et par la communauté Pachtoune, et j'ai compris que je pouvais pas naviguer comme j'aurais voulu dans le lieu, parce qu'après, ça aurait été un affront aussi. Les relations entre les différents groupes n'étaient pas toujours faciles. Il y avait des tensions en lien aussi avec la captation des ressources, que ce soit des ressources matérielles ou aussi les soutiens qui sont des ressources. Et donc, voilà.
Ouais, qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, les Afghans à ce moment-là?
Alors, ils parlent de leur déception, de leur grande déception, de leur grande désillusion. Comme là, ils se posent un peu dans ce lieu, c'est des moments où ils craquent un petit peu hein, après avoir voyagé. Alors, c'est le contraste entre cette désillusion et le fait que sur leur page Facebook, ils mettent des photos d'eux devant la Tour Eiffel et donc ils entretiennent le mythe aussi par rapport au pays d'origine. Quoi.
Oui, l'Europe, pays de cocagne. Quoi.
Voilà.
Alors, finalement, l'évacuation a lieu hein, fin octobre 2015. Qu'est-ce qui a été l'impact en fait de toute cette histoire sur les habitants?
Alors cette évacuation, déjà, c'était très important pour les habitants qu'elle se passe sans violence. C'était très important dans ce qu'il allait rester comme trace de cet événement dans le quartier et puis dans ce qui allait être raconté aux enfants. Après, ça a créé à la fois un soulagement parce que c'était trop lourd à porter sur la fin. Il y avait des inquiétudes quand même qu'il y ait des drames. Il y avait eu une grosse bagarre où des parpaings étaient tombés dans la cour du collège. Il avait fallu mettre les enfants à l'abri, donc ça devenait plus possible, quoi. Donc soulagement et en même temps grand vide. Les habitants qui s'étaient mobilisés ont envie de continuer à s'engager, pas forcément sur la cause des réfugiés en général, mais sur la cause du quartier, qui est un quartier multiculturel, pluriconfessionnel. Il y a 25% d'immigrés dans ce quartier. Donc c'était s'engager pour sortir de l'entre-soi, puisque ce sont des habitants plutôt des catégories intellectuelles et artistiques qui étaient moteurs de ce petit groupe-là. Et donc ils ont créé un café associatif qui se réunit dans l'espace public, sur la place ou dans le square, une fois par mois. Ça s'appelle le Cafette. Et donc ces gens voilà, ont voulu continuer à exister comme groupe, à essayer de s'engager un peu plus avant pour ce quartier un peu fragile.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain, mais tout de suite sur RFI, un nouveau point sur l'actualité.